perkeleen tontot!
Yeah, salut à tous, bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission Check Me Load, votre émission métal qui chaque semaine eh bien, vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Alors en ce vendredi 12 avril, il y a assez peu de sorties, ça va un petit peu plus s'énerver la semaine prochaine, le 19, où là on va avoir pas mal de choses. Mais voilà, je vous ai quand même dégoté quelques petites nouveautés de qualité, des petites pépites. Et puis tout à l'heure, d'ici une petite demi-heure, eh bien, je vous proposerai une interview avec un groupe qui nous vient de Nancy, qui fait du metal progressif, du death progressif plus exactement. Il s'agit du groupe Fractal Universe, qui va bientôt sortir, donc dans une semaine, hein, son deuxième album, un album qui s'intitule Rhythms of Insanity, qui est un concept album sur le thème de la folie. On va en reparler tout à l'heure. Et normalement, si tout se passe bien, eh bien, j'aurai le batteur qui s'appelle Clément et qui va nous présenter son groupe, bien sûr, mais aussi ce nouvel album. En attendant, eh bien, on va se faire une petite sélection de nouveautés. Et puis, en toute fin d'émission, on retrouvera cette semaine la rubrique 20 ans dans tes dents. On écoutait quoi il y a 20 ans dans Check Me Load? C'est la rubrique anniversaire de cette émission. Et aujourd'hui, on ira du côté de la Finlande. Je ne vous dis que ça. Mais en attendant d'aller en Scandinavie, je vous propose qu'on s'intéresse à ce qui se passe en France pour cette première sortie du jour, puisque arrive aujourd'hui le nouvel album d'un groupe qui a beaucoup marqué les années 2000, c'est le groupe Acme. C'est son ultime album qui sort aujourd'hui, un album qui s'appelle Requiem. Alors, avant d'en parler un petit peu plus de cet album, je vais vous dire quelques mots sur ce groupe qui est parisien, qui s'est formé lui aussi il y a 20 ans, hein, en 1999. C'est un groupe qui a été créé sur les cendres d'une autre formation qui s'appelait Neurosyndrome. Voilà, ça n'a pas laissé un souvenir impérissable, mais bon, voilà, faut bien faire ses débuts et puis arriver à faire quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus costaud. C'est ce qui est arrivé avec Acme. Alors, depuis ses débuts, il y a 20 ans, le groupe a connu quand même quelques changements de taille. De ses membres d'origine, aujourd'hui, il ne reste que le batteur qui s'appelle Étienne Sartou et puis la bassiste Charlotte Poiget, qui était pas là au tout début, elle est arrivée mais très très peu de temps après la création du combo. Et puis sinon, les deux gros départs, ça a été d'abord le guitariste Benjamin Rubin qui a quitté le groupe en 2008, et puis le chanteur Thomas Thirion qui a passé le micro à Vincent Peignard-Mancini en 2012. Alors, Acme, c'est un groupe qui va faire ses débuts dans un collectif musical qui s'appelle la Team Nowhere. Dedans, on va retrouver d'autres groupes tels que Playmo, Enhancer, Noisy Fett, Wunjo. Et Acme va profiter de ce mouvement dit Frenchcore qui va faire les belles heures du métal français au début des années 2000 pour se glisser dans la brèche et puis se faire connaître. D'ailleurs, à l'époque, leur son très alternatif, voire presque post-grunge, détonne quand même pas mal avec l'ambiance très new metal hein, des autres formations qui composent la Team Nowhere. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence par rapport à ses camarades, puisque c'est tout naturellement que le style d'Acmé va évoluer d'abord vers un son qui va être encore plus alternatif, et puis vers des influences presque death mélodiques sur ses dernières productions. Du coup, ce qu'on peut constater, c'est que Acmé va traverser ses deux décennies de carrière sans trop passer par la case oubli. Finalement, ils seront là depuis les années 99, ils ont été là quand même sans qu'on les oublie trop, comme par exemple ça a été le cas pour Plémo. Plémo, c'est un groupe qui a cartonné au début des années 2000, qu'on avait totalement oublié jusqu'à ce que l'année dernière, ils fassent leur passage au Hellfest. Donc voilà, Acmé va sévir dans un style relativement différent qui va peut-être le sauver. Pour ce qui est de sa discographie, leur premier album sort en 2002, c'est Sombres Efforts, que vous possédez forcément dans votre CD Tech si vous étiez un ado fan de métal dans les années 2000. Il va être suivi plus tard par Polaroid et Pornographie, et puis il y aura une série de disques, alors peut-être un peu moins marquants, du moins jusqu'à l'arrivée de Vincent Auchan. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement les deux derniers albums jusqu'à celui-ci, donc du groupe. Il y avait eu Dévisager Dieu qui était paru en 2014, et puis l'album éponyme Acmé paru en 2017, qui sont vraiment très réussis. Donc si vous voulez redécouvrir leur discographie, voilà, moi je vous conseille les deux premiers albums et puis les trois derniers, en comptant ce Requiem qui sort aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, l'histoire est sur le point de se refermer pour Acmé, puisque le groupe a décidé qu'il était temps de se dire adieu. Ils ont annoncé en novembre dernier qu'ils se sépareraient à l'issue d'un ultime album et d'une ultime tournée. Alors cette tournée, elle prendra fin le 5 octobre au Trianon. Et donc, pour nous dire au revoir, ils ont choisi d'intituler leur dernier album Requiem, un mot potentiellement n'importe quoi. Donc c'est un mot qui est lourd de sens, hein. Requiem, puisque c'est un mot qu'on utilise dans la musique classique, qu'on utilise aussi dans la musique religieuse, mais qui, détaché de son acception sacrée, vous invite à pénétrer l'univers musical unique de ce groupe, donc sur le point de tirer sa révérence. Mais que les choses soient claires, cet album c'est pas du tout une épitaphe auditive, c'est plutôt le prolongement logique d'une discographie riche, intense, qui se clôt avec panache, donc par ce 9e album, qui est inspiré, puissant, extrêmement bien produit par le batteur Étienne Sartou. On y retrouve toutes les sonorités, les influences qui ont fait la gloire d'Acmé. Ces paroles aussi déclamées dans la langue de Molière, ou j'aurais envie de dire de Baudelaire, qui ont fait sa singularité, qui ont fait qu'on les aimait ou des fois qu'on les aimait pas aussi à cause de ça. Et j'ai envie de dire que je pense que plusieurs de ces nouveaux titres présents dans cet album vont faire trembler les scènes que va fouler le groupe durant cette tournée d'adieu. Voici tout de suite un extrait de cet album Requiem, tout dernier album d'Acmé. On va écouter le morceau Enfer, c'est tout de suite, c'est sur Bac FM. Subir, espère, sans aucune.
l'instant où je rentre dans les couloirs noirs, je m'effondre. Alors promets-moi.
Vous venez d'écouter le groupe Acmé avec le titre Enfer, c'est un extrait de l'album Requiem qui paraît aujourd'hui, l'ultime album du groupe qui va donc tirer très bientôt sa révérence. Donc si jamais le groupe passe près de chez vous, si vous n'êtes pas de notre région, eh bien allez y faire un tour. Et puis pour les autres, regardez s'il y a des dates qui vous intéressent, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de revoir le groupe une dernière fois. Ils sont passés plusieurs fois hein, par ici, on a pu les voir à Varennes-Vauzelles, on a pu les voir à Fourchambault aussi à l'époque, une salle qui s'appelait Le Manoir, et voilà, c'était toujours des très bons moments les concerts d'Acmé. Il y avait les détracteurs, hein, ceux qui ne les aimaient pas, et c'est aussi ce qui fait la force d'un groupe, c'est d'avoir des admirateurs et des détracteurs. En tout cas, moi cet album, je le trouve vraiment très bien. C'est un bon résumé de la carrière d'un groupe, finalement, qui s'en va en pleine forme. Et bon, on est presque un peu triste, du coup, qu'ils arrêtent. Mais c'est bien aussi de savoir raccrocher. Et puis, qui sait, peut-être ce sera pour mieux revenir dans quelques années. On verra bien. L'avenir nous le dira. Acmé, donc, ça sort aujourd'hui. Je rappelle, le titre de l'album, c'est Requiem. Et ça sort chez Atom. On va maintenant s'intéresser à un disque qui est paru la semaine dernière. Alors je voulais vous le présenter vendredi dernier et puis on n'a pas eu le temps, mais c'est pas grave. C'est aujourd'hui qu'on va s'occuper de son cas. Au groupe Exhumeur, un groupe allemand, un groupe de thrash metal qui a sorti donc un album intitulé Hostile Défiance. Et Exhumeur, c'est un groupe eh bien qui connaît un regain de popularité assez incroyable, comme pas mal de groupes de thrash des années 80 d'ailleurs, puisque c'est bien dans les années 80 que naît le groupe à Wiesbaden. C'est un groupe qui est créé par le chanteur Mem von Stein et puis le guitariste Ray Munch, qui sont rencontrés durant un concert de Slayer. Donc voilà, ça laissait présumer un peu du style du groupe. Alors, c'est du thrash metal allemand, mais attention, c'est du thrash metal qui est beaucoup plus inspiré de la scène américaine, justement comme Slayer, que de la scène allemande, hein, puisque elle était aussi très puissante dans les années 80 et elle a apporté beaucoup à ce mouvement. Et d'ailleurs, Exhumeur va se présenter comme le groupe de thrash metal américain d'Allemagne. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu qu'on est plus du côté de Slayer que de Creator. En 1986, le groupe sort son premier album qui s'intitule Possessed by Fire, qui va connaître un excellent accueil et qui d'ailleurs pour de nombreux fans de thrash va figurer parmi les albums incontournables du genre. C'est un album qui a tellement compté dans ce style qu'il est réédité en 2001. Mais voilà, quelques semaines seulement avant la sortie de ce premier opus, le chanteur Mem von Stein va quitter la formation et il va être remplacé sur l'album suivant qui s'appelle Rising from the Sea, qui paraît en 87, par un autre chanteur qui s'appelle Paul Arakaki, mais il va y avoir des tensions internes au sein du groupe qui vont finir par entraîner sa dissolution en 1991. Et on peut le dire, hein, Exhumeur va tomber carrément dans l'oubli. Du moins jusqu'à cette fameuse réédition de 2001 que j'évoquais il y a quelques secondes, et puis aussi jusqu'à l'édition cette même année du célèbre festival Wacken Open Air, à l'occasion duquel le groupe va se reformer, d'abord le temps d'un concert, et puis ce sera ensuite de nouveau Silence Radio jusqu'en 2008, où cette fois les deux fondateurs du groupe, donc Mem von Stein et Ray Munch, vont annoncer officiellement la reformation d'Exhumeur, qui va cette fois-ci aboutir en 2012 à la sortie d'un troisième album studio qui s'appelle Fire and Damnation, qui arrive donc 25 ans après son prédécesseur, qui a été enregistré sous la houlette du célèbre producteur polonais Waldemar Sorycza, donc qui a bossé avec Moonspell, Samael, Therion, The Gathering et j'en passe. Et ce Fire and Damnation va être suivi d'une importante tournée mondiale qui va marquer donc le grand retour du combo culte sur la scène trash. Et bah fort heureusement, cette fois-ci, le groupe mettra pas 25 ans à enregistrer un nouvel opus, puisque son quatrième album, qui s'appelle The Raging Tides, va paraître, lui, en 2016, donc voilà, 4 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est le cinquième album, donc qui est arrivé il y a une semaine, qui s'appelle Hostile Défiance. Alors, le titre résume tout à fait bien le contenu du disque, qui vous envoie direct dans les tympans 42 minutes d'attaque, qui frappe violemment, tout en incluant une variété de sonorités et de dynamiques encore jamais révélées par Exhumeur. Selon le chanteur Mom Weinstein, le groupe voulait que sa musique progresse en intégrant des sonorités plus mélodiques, plus variées, plus rythmiques. C'est réussi. Cette fois-ci, c'est Donny Cohen qui a produit l'album. C'est la troisième fois qu'il bosse avec Exhumeur. Et lui, il a bossé notamment avec Sodom ou Melekech, pour vous donner une petite idée de son CV. Côté scène, le groupe a repris la route dès la semaine dernière. Il va sillonner toute l'Europe pour défendre cette idée qui leur tient tant à cœur. Asseoir l'idée qu'Exhumeur est un des pionniers du thrash metal allemand, initié dans les années 80, qui a toujours la force de se renouveler et de faire sensation dans les années à venir. Pour l'instant, c'est plutôt vrai, on va voir la suite, mais c'est bien parti. Voici d'ailleurs un extrait de Hostile Défiance, avec justement le titre Hostile Défiance. Voici Exhumeur sur Bac FM.
Bye.
C'était Exhumeur sur Back FM dans l'émission Check Me Load, votre émission métal, avec le titre Hostile Defiance, extrait de l'album Hostile Defiance paru la semaine dernière. Exhumeur, pionnier du thrash metal de la scène allemande, mais avec un son très US, qui avait fait le bonheur des thrashers dans les années 80, qui avait disparu et qui revient en force. Donc bah pareil, une grosse tournée européenne pour le groupe Exhumeur. C'est à suivre sur les réseaux sociaux, vous retrouvez toutes les dates. Je sais plus s'ils passent en France ou pas. On les verra certainement sur un ou deux festivals de toute façon. Un petit peu de black metal avant de recevoir le groupe Fractal Universe pour nous présenter son nouvel album. On va s'intéresser à Drudka. Alors je sais jamais comment on le prononce, si c'est Drudk, si c'est Drudkash, enfin c'est assez compliqué. Ça s'écrit D-R-U-D-K-H, donc voyez mon embarras. En tout cas, le groupe sort aujourd'hui une compilation qui s'appelle Few Lines in Archaic Ukrainian. Alors vous l'aurez compris, le groupe nous vient d'Ukraine, plus précisément d'une ville qui s'appelle Kharkiv. C'est un groupe qui existe depuis 2002, qui a été créé notamment par deux membres du groupe Head Forest, soit le chanteur Turios et le guitariste Roman. Alors Drudk a pour particularité d'être extrêmement discret, le groupe communique très peu sur son actu, ne donne aucune interview et surtout ne donne aucun concert, ce qui est assez singulier pour un groupe de rock, de métal ou de ce que vous voulez. C'est très très rare quand même. Pour ce qui est de son style, on est entre black et folk metal. C'est une musique principalement inspirée par la musique traditionnelle de l'Est, sur des paroles qui ont la plupart du temps pour thème la mythologie slave, la nature, la poésie. Voilà, ça revient très souvent dans les albums du groupe. Et s'ils sont très discrets, eh ben ça ne les empêche pas d'être extrêmement productifs, puisque à ce jour, Drudk a sorti pas moins de 11 albums studio, plus 2 EP et 4 splits avec les groupes Winterfillet, AIDS, Almighty, Paysage d'hiver et Grift. Alors c'est en 2003 que Drudk avait sorti son premier album qui s'appelait Forgotten Legends, mais c'est à la sortie de The Swan Roads, son troisième album en 2005, que le combo va attirer l'attention des médias spécialisés, qui vont être plutôt enthousiastes. L'autre étape importante dans sa carrière, ce sera sa signature en 2008 avec le label français Season of Mist, sur lequel sort l'année suivante Microcosmos, un album qui va connaître un joli petit succès chez les amateurs de black metal. Quant au dernier album en date du groupe, eh bien c'est They Often See Dreams About The Spring, qui est paru en 2018. Mais si on s'intéresse à Drudk aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour un nouvel album, c'est pour une compilation qui s'intitule donc A Few Lines in Archaic Ukrainian et qui regroupe en fait tous les titres enregistrés par le groupe sur les différents splits que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc Drudk vous propose ici la crème black metal, du black metal ukrainien dans toute sa splendeur, hein, avec un torrent de riff de génie, une tristesse palpable des cri déchirant, c'est beau, c'est sombre et c'est torturé. On écoute Drudk avec le morceau Autumn in Sepia, qui à l'origine était paru sur le split que le groupe a enregistré avec les Suédois de Grift et qui était paru en 2016. Tout de suite, Autumn in Sepia de Drudk. Drug sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Meload avec un extrait de la compile A Few Lines in Archaic Ukrainian, un morceau qui s'appelle Autumn in Sepia. Alors un morceau qu'on va pas pouvoir écouter dans son intégralité puisqu'il dure plus de 8 minutes et si on écoute des morceaux de 8 minutes et ben on n'aura pas le temps d'en passer beaucoup d'autres. Et puis surtout parce qu'en plus il est temps de retrouver notre invité de la semaine qui s'appelle Clément. Il fait partie du groupe Fractal Universe, un groupe qui existe depuis 2014, qui nous vient de Nancy, qui a déjà sorti un EP et un premier album et qui est à l'aube de sortir son nouvel album Rhythms of Insanity qui va paraître le 19 avril chez Metal Blade Records. C'est pas rien, un groupe français qui signe chez Metal Blade, c'est très très rare. Et voilà, donc Clément va nous rejoindre d'ici quelques minutes pour nous parler de ce concept album qui tourne autour de la folie, du death progressif assez complexe, assez technique et vraiment très réussi. Pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, on va écouter un premier extrait du disque, un morceau qui s'appelle Oneiric Realization. Et voilà, tout de suite après, Clément sera avec nous pour discuter de tout ça.
Don't go, Lord, for past the sun, we have a thought to wear the
Le vendredi, le métal fait son show sur Back FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load, si vous venez de nous rejoindre. À l'instant, c'était le titre Oneiric Realization du groupe Fractal Universe. Il s'agit du morceau qui ouvre leur deuxième album qui s'appelle Rhythms of Insanity. Ça va paraître le 19 avril sur le label Metal Blades Records. Et pour en parler, eh bien, j'accueille Clément qui est le batteur du groupe. Salut Clément.
Salut Laetitia, tu vas bien ?
Eh ben ça va très bien, et toi ?
Eh ben super, une belle journée, je fais un grand coucou à tous les auditeurs de Back FM.
Eh ben merci à toi. Donc là vous êtes en pleine journée promo je crois sur Paris,
oui,
hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, on est au Black Dog à Paris, on est arrivé ce matin très tôt et on enchaîne les interviews depuis 11h à peu près.
Ça va, c'est pas trop fatigant pour l'instant ?
Non, ça va. C'est la première fois qu'on fait ça, on n'est pas du tout habitué, mais bon, c'est une première à tout et puis c'est l'occasion d'apprendre. Hein.
Mais et puis je pense qu'on va beaucoup entendre parler de vous hein, d'ici les semaines et mois à venir.
Bah merci, c'est gentil, ça fait plaisir.
Alors pour commencer, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est né Fractal Universe et puis nous dire aussi quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui, à quelques jours de la sortie de votre deuxième album ?
Eh ben écoute, Fractal Universe s'est créé. On a commencé le groupe en 2015.
D'accord.
On a fait notre premier concert. C'est une réunion de potes. Il y a Vince qui est le guitariste et Hugo qui est aussi un guitariste qui était ami d'enfance. Ils m'ont rencontré sur des concerts locaux. On était tous des musiciens de la scène lorraine. Et Valentin, notre bassiste, c'est Vince qui l'a rencontré au MAI. Et puis cette union a fait qu'on a commencé à jouer en 2015. On a sorti un premier EP, Boundaries of Reality.
Ouais.
On a enchaîné en 2017 avec un premier album, Ingram of Decline. Et là, comme tu l'as dit, on sort notre second album, Rhythms of Insanity, le 19 avril via Metal Blade Records. Bah, notre parcours, c'est très simple. Dès qu'on a commencé, on a cherché à jouer. À essayer de vraiment véhiculer quelque chose autour du groupe en se produisant le plus possible, en sortant beaucoup de contenu vidéo, des choses comme ça. On a participé notamment au Headbang Contest, c'est un tremplin qui nous a permis de jouer au Motocultor, et de fil en aiguille, on a commencé à faire un peu parler de nous, et là on a toqué à la porte d'un des plus gros labels sur la scène métal, qui est Metal Blade Records.
Quoi. Ouais, gros label américain, hein, prestigieux.
C'est ça. Bah, prestigieux, oui. Brian Slagel a été un des premiers à sortir un titre de Metallica il y a pas beaucoup de temps,
ouais.
Et puis aujourd'hui ils ont des groupes de qualité, pour n'en citer quelques-uns, t'as Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder, enfin ils ont vraiment un roster, un catalogue de groupes dont moi je suis fan depuis des années, donc c'est un petit rêve qui se réalise pour nous quoi, petit groupe français.
Il y a peu de groupes français hein, sur Metal Blade.
Bah écoute, sauf bêtises, actuellement il y a nous et il y a Igor, et je crois qu'on est les deux seules signatures du label depuis qu'il a été créé, donc c'est un petit peu dingue.
Et quand on voit la renommée d'Igor actuellement, ça laisse présager quand même de belles choses pour Fractal Universe.
On espère, en tout cas on travaille d'arrache-pied pour, on sait que signer sur un label pareil c'est aussi des responsabilités pour nous, il faut qu'on soit pro et en espérant qu'il y ait le petit coup de chance en plus qui fasse qu'on entendra encore parler de nous dans 10 ans, voilà, c'est le but.
Alors la musique de Fractal Universe, c'est du death metal progressif.
Ouais, c'est ça.
Alors en écoutant le nouvel album, moi j'ai pensé à pas mal de groupes comme Opeth, Between the Buried and Me, Obscura, un peu à Gojira aussi.
Est-ce
que tu peux nous en dire un petit peu plus sur vos influences musicales qui m'ont l'air quand même assez larges et variées ?
Eh ben écoute, oui, large et varié, c'est vraiment le credo qu'on a. On a tous des univers différents. Pour parler de moi, je suis rentré dans le métal par la porte de Slipknot,
d'accord.
Korn, des choses comme ça. Ensuite, j'ai écouté beaucoup de thrash metal. Et puis, quand j'ai rejoint le groupe, j'ai découvert cet univers death progressif. J'étais aussi un grand fan de Gojira. Pour Vince, qui compose la majorité de nos morceaux, lui, depuis qu'il est tout petit, il écrit des musiques, il a baigné dans une culture très très variée, il a découvert des groupes comme Obscura, Necrophagist, et puis voilà, c'est un petit melting pot de beaucoup d'influences effectivement, et je trouve que les groupes que tu as cités nous correspondent plutôt bien. On essaie d'avoir notre propre identité. C'est sûr que c'est des influences fortes, mais on veut pas être une copie. De toute façon, on n'arriverait pas à la cheville de groupes comme ça. On va avoir notre identité propre.
Voilà. Non, mais puis, par rapport à votre premier album, je trouve que l'identité, elle commence vraiment à s'affirmer, là.
Hein. Oui, effectivement, après, on a eu on a eu beaucoup d'expérience depuis qu'on a démarré. On a aussi beaucoup progressé musicalement et techniquement. Et puis, on n'est pas là pour déverser dans la technique. On essaie avant tout de servir à la musique. Moi, j'adore quand un groupe aspire à me procurer des émotions, des choses comme ça. Je m'ennuie vite quand c'est juste de la démo pure et dure. Donc, on veut éviter de tomber là-dedans aussi, quoi.
Oui.
C'est peut-être un poil le cas sur Ingram of Decline. Et là, on a cherché à faire des morceaux qu'on prend plaisir à écouter, à rejouer encore et encore. Et voilà.
C'est vrai que vous restez de très très bons musiciens. Hein. Ça, c'est indéniable. Vous êtes très fort en termes de technique. Mais c'est vrai aussi que là, j'ai trouvé que vous étiez peut-être... Enfin, la technique est un peu plus subtile.
Oui, après, pour ce qui est de la batterie, les morceaux sont pas plus simples qu'avant. Ils sont même, je trouve, plus difficiles. Ce qui est difficile pour moi en tant que batteur, là, c'est de jongler entre beaucoup de styles différents. Mmh. Je sais pas, tu as écouté l'album en entier?
Oui, bien sûr.
Bah, tu vois, tu peux passer de passages avec des shuffles, d'autres avec des gros blast beats, ou encore des passages où là... Il faut rester dans le groove et pas... Enfin voilà, il se passe plein de choses différentes et c'est vrai que d'être au niveau pour toutes ces sous-parties de batterie, c'est compliqué, ouais.
Alors, ce deuxième album, on l'a déjà dit, hein, il s'intitule Rhythm of Insanity. Il s'agit d'un concept album qui tourne autour du thème de la folie. C'est une notion qui est aussi vaste que complexe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce thème et sous quel angle est-ce que vous l'avez abordé?
Bah écoute, ce qui nous a donné envie de bosser sur ce thème-là, c'était de justement rester vaste. Il y a beaucoup de groupes de métal qui traitent d'un sujet précis à chaque fois. Ça peut être par exemple l'environnement, ça peut être la société de consommation, plein de choses. Et on trouve quand même souvent une critique de ces choses-là. Ben voilà, l'environnement, on s'en occupe pas assez, on est dans une société qui court à sa destruction, etc. etc. Il y avait plein de sujets possibles et on s'est dit que... En restant sur le thème de la folie, on touchait quand même un peu à tout, mais on traitait la racine du problème, mais également on voulait véhiculer un message que la folie peut être positive car elle peut être créatrice. Tu vois, par exemple, petit coup de folie qui fait qu'on crée des morceaux quand on est musicien ou qu'on est écrivain et qu'on propose des choses nouvelles par rapport à l'époque, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu cette rencontre de ces deux notions, la raison, la folie, la frontière entre, et s'interroger sur est-ce que la folie est forcément négative ou pas, et on fait une petite comparaison avec les sociétés dans lesquelles on évolue aujourd'hui, quoi.
Et moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur ce thème. Vous êtes beaucoup documenté, non?
Il y a eu un travail de recherche en collaboration avec un de nos amis, Arthur Masso, pour le citer. Donc qui écrit ses propres textes et on travaille en étroite collaboration avec lui, donc il nous a beaucoup apporté aussi sur la partie documentation et écriture des textes pour rester dans quelque chose de fluide et de naturel. Mais c'est pas notre vocation première, on peut pas tout faire non plus.
Ouais, bien sûr.
Et voilà.
Et est-ce que le titre de l'album Rhythms of Insanity, ça fait référence à la théorie du rhizome qui avait été développée par les philosophes et psychiatres Deleuze et Guattari?
Je crois que je vois de quoi tu parles. Oui, on peut voir ça comme ça. Après, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il me semble que ouais, c'est un travail étudié également dans cet aspect-là.
D'accord. Alors, l'album, il est quand même assez complexe. Hein. C'est un album qui se mérite, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas tout relever, tout maîtriser à la première écoute. C'est aussi un album que j'ai trouvé rempli justement de petites aspérités, de petits détails qui vont se révéler au fur et à mesure de ses écoutes. Mais en même temps, il est aussi également très cohérent, très structuré. Ça s'est passé comment, la phase de compo? Vous avez d'abord écrit la musique ou c'est d'abord les paroles qui sont venues?
Bah, en fait, on part toujours d'une base écrite par Vincent, donc notre chanteur guitariste.
D'accord.
Suite à ça, on fait des écoutes, on commence à travailler les morceaux. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque étape de la composition, c'est progressif. Hein. D'abord, on les joue que de manière instrumentale. Ensuite, le chant commence à se rajouter, etc. On revisite un petit peu ce qui se passe. Et puis, on s'interroge tout le temps aussi sur l'ajout ou non de nouveaux éléments dans le morceau qu'on peut pas jouer. Hein. Je parle donc de samples. Et au final, il y a plein de petits détails comme ça qui terminent durant le mix final. Qu'on fait avec un ami à nous qui s'appelle Flavien Morel, avec qui on passe beaucoup de temps dans le processus de mixage. Et donc, lui, il y a plein de petits éléments comme ça qui se, qui se rajoutent au fur et à mesure et qu'on découvre à chaque nouvelle écoute, parce que des fois c'est très bien caché, comme tu dis, dans le mix, et on n'a pas forcément l'attention dessus tout de suite.
Alors du coup, comparé au premier album donc qui était sorti en 2017, tu l'as dit tout à l'heure, il s'appelait Ungram of Decline. Là, on note quand même une sacrée évolution. On a parlé de la batterie, mais on pourrait aussi parler du chant. Il y a beaucoup plus de chants clairs. Il y a aussi, je trouve, peut-être un peu plus d'expérimentation. Vous repoussez un peu les limites. Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de travailler entre ces deux albums? Comment elle s'est faite, cette évolution?
Ben déjà... faut savoir, c'est que quand on a formé le groupe, l'EP et une bonne partie des morceaux de Ingram of Decline étaient déjà composés. Enfin, l'EP était fini, hein, la batterie au début était programmée, il n'y avait pas de batteur à l'époque. Et durant ces deux années de composition, on a appris à travailler ensemble, ce qui n'est pas facile hein, quand on se rencontre, etc., de bien collaborer. Donc il y a eu cette phase de travail-là, et puis je pense que chacun a mûri aussi dans sa manière d'appréhender les morceaux, quoi. Et puis on a voulu mettre ce qui nous faisait plaisir aussi, donc forcément il y a du changement entre cet album-là et celui d'avant.
Et alors, on dit souvent que le deuxième album c'est un tournant assez capital dans la vie d'un groupe. C'est quoi l'état d'esprit là à quelques jours de sa sortie?
On a super hâte que l'album sorte. En plus là on est super content parce qu'on va partir en tournée avec Black Dahlia Murder sur leur date française. Donc,
cool.
À Angers, Mulhouse, Paris et Lyon. Donc, on a appris ça il y a quelques jours. Donc, très excité à l'idée de le défendre. On va réaliser également un concert de sortie dans notre région. Donc, on va jouer l'album en intégralité plus d'autres titres.
D'accord. Donc, ça, ce sera
l'état d'esprit. C'est vraiment de jouer nos titres en live et de voir ce qui se passera. Et de déjà repartir sur le travail pour le prochain.
Donc en ça, ce cas, sera à Nancy, c'est ça?
Du côté sera, oui, près de chez nous, alors au Gueulard Plus de Nilvange. Voilà, c'est
d'accord.
Un peu plus au nord de Nancy.
Et sinon, vous avez des festivals qui se profilent ou pas encore? C'est en train de se caler?
Écoute, là, dans les festivals, il y a principalement le Met Farm qui va être près de chez nous aussi, en Lorraine.
D'accord.
Et on sera aussi en première partie de Cannibal Corpse et Napalm Death le 6 juillet près de Limoges.
La classe.
Donc voilà, pour l'instant, il y a encore d'autres choses dans les tuyaux, mais qui ne sont pas encore annoncées.
Voilà. On verra ça en vous suivant sur les réseaux sociaux. De toute façon, on aura toutes les infos pour savoir où vous voir en concert. J'aimerais bien aussi qu'on dise quelques mots sur l'artwork. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si je me trompe, moi j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir d'une peinture, sachant que la folie a quand même pas mal inspiré les peintres à travers les siècles, comme Jérôme Bosch, Munch ou Goya, pour en citer quelques-uns. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet artwork?
Écoute, l'artwork a été réalisé par un artiste nantais qui est un bon ami du groupe, qui s'appelle Shad, S-H-A-D. Il représente un lien avec le concept de l'album, c'est-à-dire qu'on a un personnage central qui est Gaïa, qui symbolise un petit peu l'équilibre entre la sagesse et la folie.
Ouais.
Et autour de ça, donc on voit des petits personnages en dessous d'elle qui représentent divers stades de ce chemin-là. Donc on a le sage fou et le fou sage dessus, etc. Mais je crois pas que c'est une peinture, je crois qu'il l'a dessiné au crayon ce tableau.
D'accord, bon, en tout cas c'est très réussi et c'est vrai que ça finit bien le concept. Voilà, tout est bien lié entre la musique, les paroles, l'image. Et vraiment c'est très très réussi, quoi.
Ben merci, ça lui fera plaisir je pense. Et on lui a laissé aussi pour donner un peu plus d'infos, il est parti de là-dessus avec les paroles, la musique, et hormis les tons plus chaleureux de la pochette, il a eu le libre cours à son imagination pour dessiner l'artwork.
Et c'était lui qui avait déjà dessiné l'artwork du premier?
Oui, il a fait tous nos artworks, également l'EP
Of Reality. En tout cas, l'album, il n'est pas encore sorti, mais vous êtes déjà à l'honneur dans le magazine Rock Hard, hein, puisqu'il y a une interview, il y a aussi une chronique de Charles Eliarno qui vous a attribué un très beau 8 sur 10. Alors, ça fait quoi de se retrouver aux côtés de Megadeth et de Devin Townsend dans le magazine?
Écoute, ça fait plaisir. J'en ai entendu parler, là. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, je crois.
Ah, ça fait quelques jours.
Je ne savais pas pour la chronique, mais ça fait... c'est une fierté hein, de côtoyer des groupes qui nous ont fait rêver quand on était plus jeunes, de partager ça, faut que ça continue, c'est bien, ça fait chaud au cœur, ça prouve qu'on travaille pour quelque chose.
En tout cas, merci Clément de nous avoir présenté le groupe Fractal Universe, Et puis ce nouvel album, donc Rhythms of Insanity, on le rappelle, ça va sortir le 19 avril chez Metal Blade Records. Et bah, je te propose qu'on se quitte avec un nouvel extrait du disque.
Eh ben, je t'en prie, on y va.
Eh ben, c'est parti. Alors, j'ai choisi le morceau Masterpiece Parallélisme parce que c'est un de mes titres préférés sur le disque. Voilà, est-ce que ça te va ?
Bah, vas-y, c'est parti. Hein. C'est un des plus bourrins et des plus difficiles à jouer, donc on y va.
Merci encore, Clément. Et puis, je te souhaite bon courage pour cette journée de promo. À bientôt sur la route.
À bientôt et merci aux auditeurs qui nous écoutent.
Salut. Yeah. Retenez bien le nom de ce groupe, Fractal Universe, qui va sortir la semaine prochaine, 19 avril. Son deuxième album, qui on le rappelle une dernière fois, s'appelle Rhythms of Insanity, concept album sur le thème de la folie. Vous venez d'écouter le titre Masterpiece Parallélisme. Et voilà, ça va sortir chez Metal Blade Records. C'est pas toujours facile pour un groupe français d'arriver à accrocher un gros label américain comme ça, un label mythique, et eux l'ont fait, donc voilà, ils ont un très fort potentiel, et en général Metal Blade a bien le nez pour découvrir. On en parlait dans l'interview avec Clément, c'est eux qui ont signé Igor, voilà, Igor, il a fait tous les festivals de l'été, on voulait l'inviter partout, et le public se réjouit à chacun de ses passages, donc on souhaite la même carrière à Fractal Universe, groupe qui nous vient donc de Nancy. Eh bien écoutez, il est temps de passer à notre rubrique finale de cette émission, et cette semaine, nous allons avoir la rubrique 20 ans dans tes dents. La question c'est, on écoutait quoi il y a 20 ans en avril 99, époque où se tenait la toute première saison de Check Me Load. C'est une vieille émission que vous écoutez en ce moment sur Beck FM. Alors par exemple, on écoutait plein de choses, il y avait beaucoup de groupes, ça a été assez compliqué de faire mon choix, mais on découvrait parmi toutes ces sorties le deuxième album d'un tout jeune combo finlandais, doté eux aussi d'un très fort potentiel, mené par un tout jeune chanteur-guitariste des plus talentueux qui s'appelle Aleksi Laiho. Vous aurez certainement deviné que c'est de Children of Bodom dont je vous parle, et que l'album en question, eh bien, c'est Headbreeder, paru le 26 avril 1999. Alors quelques mots sur Children of Bodom avant de parler de Headbreeders. Le groupe naît en 93 à Espoo, c'est pas très loin d'Helsinki. Au départ, ils vont s'appeler Unearthed, et finalement, ils vont devenir Children of Bodom en 97, un nom qui fait référence à un lac qui est situé à Espoo, le lac Bodom, qui est tristement célèbre pour avoir été le théâtre du meurtre de trois adolescents en 1960. Alors on découvre le death metal mélodique aux forts accents heavy metal du groupe sur son premier album Something Wild en 97, mais c'est bel et bien à partir de Headbreeder, qui arrive deux ans plus tard, que Children of Bodom, désormais signé chez Nuclear Blast, va voir sa popularité grimper en flèche. Ce deuxième album lance définitivement la carrière commerciale du groupe, et beaucoup de fans le considèrent comme étant leur meilleur opus. Beaucoup de critiques aussi, hein. C'est vraiment, ça fait partie, s'il y avait un chef-d'œuvre à retenir de Children of Bodom, ce serait probablement Headbreeder. Alors l'album, il a été enregistré entre fin 98, début 99, ça se passe au studio Astia, avec le propriétaire des lieux. C'est un tout jeune producteur à l'époque, il s'appelle Hansi Kipo, et depuis il est devenu incontournable dans le domaine de la prod metal. Alors avant même d'entrer en studio, le groupe s'était déjà mis d'accord sur le titre de ce nouvel album. Il s'était dit que l'album s'appellerait Towards Dead End. Et pourtant, durant la session d'enregistrement, Children of Bodom revient sur sa décision et va finalement opter pour ce titre de Headbreeder. Alors dans cet album, le groupe explore un son beaucoup plus influencé par la musique classique et le power metal, ce qui peut se voir dans les riffs flamboyants, les notes aiguës, et puis aussi dans les guitares au rythme qui sont quand même variés, mélodiques. Il y a la présence du clavier aussi de Jan Wierman qui se fait beaucoup plus sentir dans cet album, avec des solos plus longs, plus élaborés, ce qui impressionne beaucoup le public. Et d'ailleurs, de nombreuses chansons de Headbreeder font désormais partie des titres emblématiques de Children of Bodom et sont très très attendues durant tous leurs concerts. Pour ce qui est de l'intro du disque, on y retrouve bien évidemment Roy, c'est la mascotte du groupe. Roy représente la faucheuse, et alors Roy, on le retrouve sur toutes les pochettes du groupe, même encore aujourd'hui, et à chaque fois il est sur un fond de couleurs différentes. Sur Headbreeder, on le retrouve sur fond vert. Enfin, j'ai envie de terminer par deux petites anecdotes. La première, elle va intéresser surtout les guitaristes, puisque en fait, il s'agit tout simplement du premier album de Children of Bodom, Headbreeder, à être enregistré avec les guitares accordées un ton plus bas, c'est-à-dire en ré sol do fa la ré. Et puis la deuxième anecdote concerne le morceau d'ouverture qui s'appelle Were Art. Alors au tout début, on entend un petit sample, et en fait, il faut savoir que ce sample, c'est un extrait du film Amadeus. Amadeus, c'est un célèbre biopic sur la vie de Mozart qui est sorti dans les salles en 1984. Voilà, je pense que vous savez tout sur l'album Headbreeder. Il est désormais temps de le redécouvrir à travers une de ses chansons phares. On va écouter Silent Night, Bodom Night. Juste le temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Très bon week-end à tous, bonnes vacances à ceux qui ont la chance de l'être dès ce soir. Et puis pour les autres, bon courage, salut à tous!